Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Alice Akiman.
Nous sommes samedi 2 avril 2022, vous suivez la radio Inzambagate Kakao et c'est l'heure du journal, dont voici d'abord les principaux titres. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur le Burundi a été nommé hier. Il s'agit du Burkinabé Fortuné Gaëtan Zongo, une nomination dont se félicitent les défenseurs des droits de l'homme. Et une jeune fille aura été violée par trois imbondelakoué de la commune et province Rumonge. Des présumés violeurs ont été arrêtés et sont actuellement détenus au cachot de la police de Rumonge. Le contrat d'exploitation du nickel de Musongati passe dans les mains de la société East African Region Project Group. Son contrat avait été retiré à la société BMM International il y a près de 2 mois. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir et bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Gaëtan Fortuné Zongo, c'est le nom du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi. De nationalité burkinabé, il a été désigné par le Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour les droits de l'homme vendredi. Après des études de droit, Fortuné Gaëtan Zongo a évolué dans le domaine des droits de l'homme à travers le monde. Vanessa Mouiteka pour les détails.
Fortuné Gaëtan Zongo est né en 1974 au Burkina Faso. Après des études en droit et l'obtention d'une maîtrise en droit, il a fait une spécialisation en droit international des droits de l'homme. Le Conseil de l'ONU pour les droits de l'homme l'a nommé ce vendredi comme rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Il a toujours évolué dans le domaine des droits de l'homme. Magistrat de profession depuis octobre 2002, il a exercé aussi dans l'administration du Burkina Faso la fonction de chef de département de la protection et de la défense des droits humains au ministère de la promotion des droits humains entre 2006 et 2011. Ayant participé aux différentes sessions du Conseil des droits de l'homme, Fortuné Gaëtan Zongo a été élu comme membre du sous-comité pour la prévention de la torture. Il a aussi enseigné les mécanismes internationaux des droits humains à l'École nationale d'administration et de la magistrature, ENIMA en sigle, jusqu'en 2014. En octobre dernier, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU avait décidé de mettre fin au mandat de la commission d'enquête sur les violations de droits de l'homme au Burundi depuis 2015. Créé en septembre 2016 pour enquêter sur les violations des droits humains et les abus commis au Burundi depuis la crise de 2015, né des contestations contre la troisième mandat du défunt président Pierre Nkurunziza. Cette commission avait été reconduite 5 fois et produit plusieurs rapports accablants sur la situation des droits humains dans le pays.
Et défense des droits de l'homme salue la nomination du rapporteur spécial du secrétaire général de l'ONU au Burundi. Maître Dieudonné Bashayishize indique que le gouvernement qui s'est opposé à cette nomination ne souhaite pas que les violations des droits de l'homme qui sont commises par ses représentants soient connues. Écoutez, Maître Dieudonné Bashayishize.
Les rapporteurs spéciaux existent depuis longtemps dans le système onusien. Et pour le cas du Burundi, donc, ce rapporteur spécial essaiera de continuer la mission qui était assumée par la commission d'enquête. Seulement, on ne sait pas si le gouvernement acceptera bien de l'accueillir pour qu'il puisse mener en toute indépendance des enquêtes qui pourront déterminer si les violations des droits de l'homme continuent comme le prouvent les différents rapports des défenseurs des droits de l'homme, qu'ils soient burundais ou étrangers. C'est donc une bonne chose que la communauté internationale cherche toujours à rester informée sur les violations graves des droits de l'homme qui continuent à se commettre au Burundi, même si le gouvernement essaie de cacher et de dire que tout est meilleur dans le meilleur des mondes. Nous espérons que le gouvernement pourra coopérer et que le rapporteur spécial pourra jouer pleinement son rôle et que son travail va contribuer dans la promotion des droits de l'homme au Burundi ou dans l'alerte si jamais la situation venait à se détériorer parce que il y aura régulièrement des rapports au secrétariat général des donc au secrétaire général des Nations Unies Et s'il ne faut pas surestimer l'apport de la communauté internationale en ce qui est de la sauvegarde des droits de l'homme.
Et poursuivons avec ces courtes brèves. Enoma a été tué à la machette sur la colline Kibati de la zone de Masango, commune burkinayenne de la province de Cibitoke. Et Jedunzeimana a été âgé de 26 ans. Des habitants de cette localité disent qu'il était soupçonné d'être un bandit. 5 personnes ont été arrêtées pour des enquêtes d'après nos sources. Et puis un homme âgé de 28 ans s'est donné la mort sur la colline de Moussavé de la colline de Kayanza dans la nuit dernière. Josué Morosa s'est suicidé à l'aide d'une corde. Il était étudiant à l'école normale supérieure d'après le voisinage. Il s'agit de la 3e victime de suicide dans cette commune en moins d'un mois. 3e bandit à couler de la commune et province et Rumongue sont détenus au cachot de la police de Rumongue depuis ce jeudi. Ces jeunes du parti au pouvoir sont accusés d'avoir violé une jeune fille travaillant dans un bistrot de la commune Mugomele de cette commune de Rumongue. La famille de la fille demande que ces jeunes soient punis conformément à la loi. Le point avec Benny Axelakan.
Les 3 hommes ont été arrêtés le matin de ce jeudi. Le soir du mercredi, ils partageaient un verre dans un bistrot situé sur la colline Mugomele. C'est en commune Rumongue. Selon des sources à Rumongue et confirmées par la famille, les 3 jeunes Imbonerakure ont traîné dans le bistrot. Après avoir vu que tout le monde est parti, ils ont voulu eux aussi rentrer sans payer. La servante les a refusé de quitter. Les 3 agresseurs l'ont pris dans la gorge, l'autre l'introduisant des objets dans sa bouche au moment où le 3e passe à l'action en violant sexuellement la fille.
Oui, cela s'est produit. Déjà rentré tard dans la nuit, on entendit une personne qui criait au secours, mais la victime criait difficilement car nous avons appris que ces hommes l'ont égorgé et il introduisait également des objets dans sa bouche.
Le matin de ce jeudi, les agresseurs ont été arrêtés par la police. Mais dans l'après-midi, l'un d'entre eux a été relâché sur l'ordre du gouverneur de Rumongue. Consolateur Nitunga a ordonné à l'OPG de libérer le présumé, expliquant que celui-ci allait sonoriser les activités de prière du parti CNDD-FDD. Après plusieurs tractations entre les responsables administratifs, ceux du parti au pouvoir et le responsable de la police à Rumongue, le présumé est retourné dans le cachot ce vendredi matin. Des membres de la famille de la victime trouvent cela une manœuvre pour déclasser le dossier. Ils demandent à la justice de s'y pencher sans considérer l'appartenance politique des concernés. Une source médicale affirme que la victime est sur le traitement médical après que les tests aient prouvé qu'elle a été sexuellement agressée.
Toujours à Rumongue, les activités ont été paralysées dans cette ville toute l'avant-midi de ce samedi. La population a été contrainte d'aller accueillir le secrétaire général du parti au pouvoir. Les commerçants disent avoir enregistré un énorme manque à gagner. Nos sources à Rumongue, où certains jeunes du parti au pouvoir ont indiqué qu'ils avaient reçu l'ordre de mobiliser par force la population urbaine de Rumongue pour aller accueillir le secrétaire général de leur parti.
Inzamba.
Le gouvernement devrait tout faire pour que l'engrais chimique nécessaire soit disponible à temps pour les agriculteurs afin d'éviter la baisse de la production. C'est ce que suggère Egide Ngunzimana, ingénieur agronome. Il fait allusion aux nombreux agriculteurs des différentes provinces du pays qui se sont récemment plaints pour avoir reçu tardivement la fumure organique de type fumi pour cette saison culturelle B. Il craint que la récolte ne sera pas aussi bonne qu'avant. On l'écoute.
Au Burundi, nous avons deux saisons culturelles, la saison A et la saison B. La saison A commence avec la deuxième quinzaine du mois de septembre et prend fin pendant la première quinzaine du mois de janvier. Après cette période, on observe une petite période de sécheresse et qui correspond à la récolte de la première saison et puis commence la saison B. La saison B commence avec le mois de février et prend fin pendant le mois de juin. Quand les cultures de la saison B sont en maturité complète. Les agriculteurs, alors, ont un grand problème d'avoir le fumure chimique, ce qu'on appelle communément engrais chimique, à temps. C'est un problème sérieux qui inhibe la production agricole, car les cultivateurs doivent respecter le calendrier cultural et ce dernier est conditionné par la présence ou pas de la pluie.
Les pays qui représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde au Qatar à partir du 21 novembre 2022 connaissent leurs adversaires depuis ce vendredi. pour quitter le premier tour. Ces équipes africaines doivent fournir beaucoup d'efforts car elles sont logées dans des poules avec des adversaires de qualité. N'est-ce pas, Valérie Mouch?
À l'issue du tirage au sort qui a eu lieu ce vendredi soir, il est visible que les pays africains n'auront pas la tâche facile lors de la prochaine Coupe du Monde. La raison de ce mauvais tirage des pays africains est que ces pays sont logés pour la plupart dans les chapeaux 3 ou 4 avant le tirage et doivent à tout prix croiser au moins deux équipes mieux classées au classement FIFA par rapport aux représentants africains. Au moment où deux équipes de chaque groupe sont qualifiées pour le tour suivant, il sera difficile aux équipes africaines de passer le premier tour. Des efforts supplémentaires doivent être déployés pour y arriver. Même si les choses se présentent ainsi, par le passé, certaines sélections africaines se sont bien comportées. Le Sénégal a joué les quarts de finale en 2002, en Corée du Sud. Le Ghana a fait de même en 2010, en Afrique du Sud. Le Cameroun a également joué les quarts de finale en Italie, c'était en 1990. Le Maroc a atteint les huitièmes de finale au Mexique en 1986. Seule la Tunisie, qui a pourtant déjà participé à 6 Coupes du Monde, n'a jamais dépassé le premier tour. Pour 2022, les chances de la Tunisie de passer le premier tour sont également minimes. Les Aigles de Carthage vont se frotter à la France, championne du monde en titre, et au Danemark, des sélections avec un niveau au-dessus. Le Ghana n'est pas non plus épargné par le tirage au sort, car il va croiser des équipes très expérimentées, comme le Portugal de Cristiano Ronaldo et l'Uruguay. Quant au Maroc, un pays qui aujourd'hui déploie un bon football, la tâche ne sera pas non plus facile. Les Lions de l'Atlas devront batailler fort contre la Belgique, l'une des équipes en forme en Europe, et la Croatie, vice-championne du monde, pour espérer passer les poules. Le Sénégal, champion d'Afrique, une équipe sur qui plusieurs observateurs misent beaucoup, doit faire attention contre la Hollande, un grand pays de football, et l'Équateur, qui a impressionné plus d'un pendant les éliminatoires en Amérique latine. L'Équateur avait surpassé la Colombie par 6-1 et l'Uruguay par 4-2. Jouer également contre le pays hôte de la compétition n'est jamais facile. Avec ce tour d'horizon sur les représentants de l'Afrique, on voit très bien que rien n'est joué d'avance. Par contre, des efforts supplémentaires doivent être fournis par les équipes africaines afin de prouver que le football africain a évolué. La dernière Coupe d'Afrique a montré que le continent regorge de talents énormes. Tous ces pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde ont des joueurs exceptionnels qui sont parmi les meilleurs dans les championnats européens. À eux de montrer que l'Afrique peut aller au-delà des quarts de finale. Sachez que cette Coupe du Monde Qatar 2022 débutera le 21 novembre pour se clôturer le 18 décembre. Le match d'ouverture opposera le Qatar à l'Équateur. La compétition se jouera dans 8 stades. Le plus grand est celui de l'USAIL Stadium avec une capacité de 80 000 places. Il est situé à 15 km de Doha. Il est situé à 15 km de Doha, la capitale. C'est également sur ce stade que se jouera la finale pour désigner le successeur de la France, sacré champion du monde en Russie en 2018.
Après l'annulation du permis d'exploitation du nickel de Musongati octroyé à la société BMM International en 2014, le gouvernement du Burundi vient de signer un mémorandum d'entente avec la société East African Region Project Group. Le mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui se penche sur les contours de son nouveau contrat. Au cœur de la société vous est présenté par Joséphine Jones-Monziman.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agathe Kakawe, Radio RPA Ijuya Onyagihugu ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Le gouvernement du Burundi à travers le ministère des Mines a signé mardi le 29 mars 2022 un mémorandum d'entente avec la société East African Region Project Group pour exploiter le nickel de Musongati et des minerais associés. La redevance annuelle est estimée à 500 millions de dollars pour une période de 10 ans. Quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui pour ce nouveau contrat? Qu'en pensent les organisations qui prônent la transparence dans les affaires publiques? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans le mini-magazine de ce samedi 2 avril 2022, à la présentation Joséphine Johnson-Munzimana. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres du 22 mars 2022, la société East African Region Project Group a manifesté la volonté d'investir dans le secteur minier en vue de l'exploitation du nickel, de Musongati et des minerais associés. Cette société confirme que les fonds nécessaires à l'exploitation du gisement de nickel sont disponibles. Éloge divin des méchants, la radio publique africaine revient sur les clauses de son mémorandum d'entente.
La société East African Region Project Group déboursera au total 15 milliards de dollars américains dans 10 ans selon le mémorandum d'entente. C'est 1,5 milliards par an. Cet argent est subdivisé en trois volets. Le premier volet de 500 millions de dollars par an sera alloué aux recettes budgétaires selon les prévisions du gouvernement du Burundi. Le second volet d'environ 225 millions de dollars par an sera utilisé dans les projets d'intérêt public. Et le troisième volet d'environ 775 millions de dollars par an servira à l'exploitation du nickel. Ce premier mémorandum d'entente a une durée de validité de 2 mois pour donner le temps à la société East African Region Project Group de verser la première tranche des fonds. Pour des raisons de prudence, le gouvernement du Burundi se réserve le droit de proposer des mémorandums d'entente de courte durée tout au long du projet.
Pour Gabriel Rufyiri, président de l'ONUCOM, l'État se serait précipité pour signer ce nouveau contrat car il y a des préalables pour que l'exécution de ce projet d'extraction dure et soit rentable.
Il doit y avoir de la transparence. On aurait préféré que l'attribution de ce permis d'exploitation précède la mise en place de la politique nationale minière et l'adoption du code minier. On aurait aussi préféré connaître à l'avance si le pays possède déjà l'énergie nécessaire à l'exploitation de ce gisement et quand finiront les travaux de construction du chemin de fer. Car depuis longtemps, les deux constituaient des préalables à l'exploitation du gisement de nickel. Et jusqu'à maintenant, le peuple burundais ignore encore si la solution à ces préalables a été trouvée. Une autre chose importante à connaître, c'est l'identité de cette société. N'est-ce pas une société qui est en train de faire du blanchiment d'argent? Cette société n'est-elle pas comme les précédentes sociétés qui ont échoué? Nous nous posons plusieurs questions sans pouvoir trouver de réponse. Et de surcroît, les manquements que nous avons dénoncés il y a 8 ou 10 ans sont toujours là jusqu'à aujourd'hui. Nous estimons qu'il n'y a pas eu d'études bien faites avant l'attribution de ce gisement de nickel. Dans ce dossier, nous soupçonnons des intérêts d'individus dont on ignore l'identité. Nous souhaitons que l'État donne une réponse à chacune de nos questions pour éclairer l'opinion. Selon le communiqué du gouvernement, des recettes issues de l'exploitation du gisement de nickel sont prévues dans le budget. Et c'est ce que nous souhaitons tous, à condition que ce soit dans la transparence. Si nous analysons la manière et la rapidité dans laquelle cette session a eu lieu, nous soupçonnons quelque chose de louche derrière.
Lors du Forum national sur le développement du pays qui s'est tenu au mois de novembre 2021, les experts dans le commerce et le développement ont rappelé des spécificités à maîtriser pour tirer le maximum de profit de l'exploitation minière. Ils évoquaient entre autres les négociations des contrats gagnant-gagnant avec les investisseurs et la mise en place d'une industrie de raffinage afin d'obtenir les produits finis destinés à l'exportation. Selon les études déjà faites, le potentiel du nickel burundais dépasse légèrement 200 millions de tonnes et son exploitation nécessite l'électricité. Cependant, le plan national de développement 2018-2027 projette un déficit énergétique de 566 mégawatts en fonction des besoins. Les estimations montrent que les projets énergétiques en cours produiront 245 mégawatts en 2026. Cela au moment où le pays aura besoin de 412 mégawatts pour l'exploitation minière. C'est ici donc que se termine le mini-magazine au cœur de la société. Joséphine Johnson-Gunzeman a été à la présentation. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Et pour terminer, voici la revue de presse hebdomadaire et c'est avec Georges Niméya.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue à vous tous qui écoutez la radio Inzambagatia Kawe. Débutons cette revue par le journal Burundi Echo qui dit que les transporteurs internationaux sont soucieux de sauvegarder les routes. L'Association des transporteurs internationaux du Burundi, ATIB, affirme que le transport des marchandises occasionne aussi des chargements qui pèsent sur l'état des infrastructures routières. Le délabrement des routes cause l'amortissement des camions, l'augmentation des consommations en carburant, sans oublier la perte du temps. Selon Melchiade Niyonzima, président de la TIB et point focal des fédérations régionales de transport au Burundi, dit qu'il existe des transporteurs qui ne respectent pas le poids standard exigé à transporter sur les infrastructures routières. Ainsi, un camion de 6 essieux ne doit pas dépasser une charge maximale de 48 tonnes de poids brut. Restons dans le domaine du transport avec le journal Iwachu, qui parle de la circulation perturbée par le manque de parking dans les périphéries de la ville de Bujumbura. À la gare du Nord, par exemple, dans la zone Kamenge, de tous les côtés des routes, on voit des tuk-tuk, des motos et des vélos entassés en attente des clients. Interrogé par le journal Iwachu, certains conducteurs affirment que la situation risque de causer plus d'accidents qu'avant la mesure interdisant les tricycles et les bicycles de circuler dans certains quartiers de la ville de Bujumbura. Quant à l'agence burundaise de presse, les conducteurs de taxi-vélo se lamentent du faible gain suite à l'arrivée de leurs camarades qui exerçaient à mairie de Bujumbura. Selon l'agence, au nord du pays, dans la province de Kayanza, les conducteurs de taxi-vélo se lamentent beaucoup. Ils disent qu'après l'arrivée de leurs camarades déchassés de la ville de Bujumbura, ils ne font plus des économies comme avant. Selon ABP, avant, un conducteur de taxi-vélo pouvait gagner entre 4 000 et 7 000 francs burundais. Aujourd'hui, il ne peut pas aller au-delà de 3 000 francs burundais. Du côté des passagers, c'est la joie. Le ticket de transport pour ceux qui utilisent les vélos a sensiblement diminué. Terminons cette revue par le journal SOS Media qui dit que le ministre de la Santé reconnaît le détournement des fonds à l'hôpital de province à Lumonge. Mercredi cette semaine, Sylvie Nzeimana a effectué une descente à l'hôpital de Lumonge après avoir entendu qu'il y avait un mauvais climat entre le personnel de l'hôpital. Certains membres du personnel dénonçaient la mauvaise gestion qui s'y observait. À l'occasion, il a été constaté que plus de 91 millions de francs burundais ont été détournés par le directeur de l'hôpital et la directrice des finances à cet hôpital. Les conséquences de son détournement sont nombreuses. Les patients sont mal accueillis et mal soignés. Le matériel manque, les médicaments, mais aussi les actifs de laboratoire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous bouclons cette revue. Nous étions avec Georges Nimenya. Bon week-end à tous. Au revoir.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Et c'est avec vous, Georges Nimenya, que se termine cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzambara Tekakawe pour la production de ce journal. À toutes, à tous, je vous souhaite un agréable week-end. Au revoir.